Voilà, donc fête de la science, on va parler d'un système qui existe, qui est déjà en fonction dans certains endroits, pas encore totalement développé sur la surface notamment de la France. C'est la géothermie avec les structures, donc les géostructures qui apportent de l'énergie avec un système que vous allez nous présenter.
Oui, donc Hussein Amroué, professeur des universités. Université de Lille.
Dans le cadre du laboratoire de génie civil et géo-environnement, oui. Vous vous intéressez beaucoup et vous étudiez comment améliorer, rendre plus performantes les sources d'eau pour les amener dans un système d'échange à transformer en chaleur.
Oui, alors l'idée, effectivement, c'est d'utiliser une géostructure, c'est-à-dire une structure du génie civil enterrée, typiquement des fondations profondes qu'on appelle des pieux, mais également des parois moulées ou tout autre ouvrage en béton enterré qui a un rôle de prime abord structural et lui conférer un second rôle qui est thermique puisque cet élément de structure enterré, lorsqu'on lui fait circuler un fluide à une certaine température à l'intérieur, en contact avec le sol qui lui est à une température plus ou moins constante à partir d'une certaine profondeur, cette géostructure va pouvoir capter de l'énergie du terrain et donc produire de la chaleur via une pompe à chaleur qui va subvenir aux besoins en chaud et en frais pour le bâtiment, en chaud et en frais parce que ce système est réversible selon la température que l'on va injecter dans le terrain. On va récupérer soit de la température, donc augmenter la température et donc via une pompe à chaleur produire du chaud, et l'été on va injecter plutôt un fluide à une température plus élevée que celle du terrain, libérer de la chaleur dans le terrain et donc récupérer du frais via cette pompe à chaleur pour subvenir aux besoins de rafraîchissement du bâtiment.
Alors, on va donner un exemple concret. L'eau, en général, à 10-15 mètres, elle est à 14 degrés, on va résumer.
Le sol. Le sol, notamment dans le nord, mais c'est à peu près partout pareil en France, le sol, à partir d'une certaine profondeur, 10 mètres de profondeur, le terrain est à une température quasi constante. On est autour de 13 degrés. C'est essentiellement la température constante du sol qui va être intéressante. Ce qui se passe en surface, enfin sur les premiers mètres, vont plus ou moins, on va dire, pas perturber le système, mais ça ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est injecter dans nos tubes échangeurs de chaleur qu'on a intégrés dans la géostructure, injecter un fluide, bon, l'eau, mais avec des adjuvants, injecter un fluide qui va circuler, lui, et qui va rentrer à une température soit plus élevée que celle du sol. Imaginez que je fasse rentrer un fluide à 40 degrés, par exemple. Lorsqu'il va être en contact avec ma géostructure, qui, elle, est à la température du sol 14 degrés, le fluide va ressortir à une température moindre. Puisqu'il est rentré à 40, contact avec 14 degrés, le fluide va ressortir à 36 degrés environ. Cette différence de température-là, via la pompe à chaleur, va nous permettre de produire du frais. Et inversement, l'hiver, on va injecter un fluide à 3-4 degrés. Il va, au contact de ma géostructure, qui, elle, est toujours à 13 degrés, à partir d'une certaine profondeur, le fluide va ressortir réchauffé. Il va rentrer à 4 degrés, il va ressortir à 7-8 degrés. Ce gain de température via la pompe à chaleur va nous permettre de produire du chaud. Donc cette technologie-là a pour but de produire du chaud et du froid pour l'usager.
Donc dans vos systèmes, on ne crée pas des pieux juste pour faire de la géothermie, mais on utilise, je ne sais pas si on peut dire des fondations,
c'est ça,
mais des piliers qui maintiennent des bâtiments.
Tout à fait.
Et on profite de l'occasion pour créer un système où là, on peut faire circuler des fluides.
Exactement, exactement. C'est bien ce double rôle qui est primordial dans cette technologie-là et qui lui confère donc tout son intérêt, tout son caractère innovant. C'est qu'on ne crée pas la géostructure pour produire de la chaleur, elle a avant tout un rôle structural et on vient lui adjoindre un second rôle thermique puisqu'on profite du fait qu'elle soit dans le sol, enterrée, pour capter ou déposer de la chaleur dans le terrain. Donc il y a bien ce double rôle qui est extrêmement important et donc ça lui confère de facto une empreinte carbone qui est exceptionnelle puisqu'elle est quasi nulle comparativement aux technologies classiques de géothermie qui, elles, vont peut-être être plus performantes mais qui vont avoir une empreinte carbone beaucoup plus élevée. Ici, l'empreinte carbone, c'est uniquement celle liée au tube, donc elle est quasi nulle par rapport à ce que d'autres techniques peuvent offrir.
Voilà, donc un meilleur rendement écologique.
Exactement, tout à fait, tout l'intérêt.
Et donc, est-ce qu'on peut encore travailler sur ces pieux une fois que le bâtiment est déjà installé, des vieux bâtiments, ou est-ce qu'il faut concevoir ça à la construction ?
Il faut le concevoir à la construction, c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, quand on a des nouvelles réalisations, ce qu'on essaye de faire passer comme message au maître d'ouvrage, c'est quand vous réalisez des pieux, mettez des tubes échangeurs de chaleur dans vos pieux, même si vous ne souhaitez pas les relier à une pompe à chaleur et produire de la chaleur dans l'immédiat. Vous les oubliez, le jour où le gestionnaire de ce bâtiment décide de produire de la chaleur et donc d'utiliser ces pieux-là, ils pourront le faire. Bien évidemment, une fois que les pieux sont réalisés et que le bâtiment est construit, on ne peut plus. Par contre, on travaille sur des technologies, dans le cadre de la réhabilitation, il existe des technologies de géostructure qui permettent, dans le cadre de la réhabilitation, de faire également de la géostructure énergétique. Là, on est plutôt sur des micro-pieux, dans le cadre, par exemple, d'une reprise en sous-œuvre, mais il existe tout un tas d'exemples qui permettent, dans le cadre de la réhabilitation, de également faire de la géostructure énergétique.
Alors, dans les nouveaux lieux, les nouveaux espaces qui sont construits, est-ce que on peut imaginer des contraintes de cahier des charges pour faire entrer ces technologies-là de manière obligatoire?
On pourrait l'imaginer, et nous, c'est ce qu'on essaye justement de promouvoir auprès de, encore une fois, comme je vous l'ai dit, des acteurs de la construction, de rendre quasi obligatoire le fait que quand on réalise des pieux, on met des tubes échangeurs de chaleur, et si on ne veut pas les brancher de suite, on les laisse et on sait qu'ils sont à disposition. Voilà.
Alors, ces pieux, c'est ce qui paraît le plus, j'allais dire, simple, évident, en tout cas, en termes de récupération, de transformation de chaleur. Mais il y a d'autres systèmes, par exemple, dans les tunnels ou dans les bâtiments, quand il y a des grandes façades, et on peut y intégrer aussi des éléments.
C'est ça, tout à fait, que ce soit les parois moulées, quand on réalise des grandes excavations, ou les éléments de voussoir, les éléments qui viennent réaliser ce qu'on appelle l'anneau du tunnel, on peut également mettre des tubes échangeurs de chaleur, avec des surfaces de contact beaucoup plus intéressantes que celles des pieux, mais avec d'autres problématiques, des notions socio-économiques sur qui produit la chaleur, pour qui elle est utilisée, etc. Donc il y a d'autres problématiques qui se posent, et c'est ce caractère, on va dire pluridisciplinaire, qui est également à étudier et à développer pour justement avoir des critères et des éléments de discussion quand on est face aux acteurs pour savoir comment est-ce qu'on peut faciliter l'implémentation des géostructures au-delà des pieux.
Voilà, donc on peut quand même dire, si on parle rendement énergétique, on va augmenter les capacités de combien par rapport au coût de l'énergie électrique, par exemple, du courant, enfin.
Là, on va plutôt maintenant, une fois que ces systèmes-là sont installés, ils sont connectés à une pompe à chaleur. Donc c'est la pompe à chaleur, quelque part, qui va, elle, contrôler ce qu'on appelle le coefficient de performance. Donc on arrive à des coefficients de performance avec cette technologie-là qui peuvent facilement excéder le 4. On est sur 4,5. Ça veut bien dire que pour 1 kW consommé, on va en produire 4. Et donc on a des coefficients qui sont très intéressants grâce à cette technologie.
Donc votre laboratoire de génie civil et géo-environnement est basé à l'Université de Lille?
C'est ça, tout à fait, Université de Lille, au campus Cité Scientifique.
Et vous pensez donc en faire aussi un lieu de démonstration?
On a un démonstrateur de la géothermie qui est en train de s'installer sur le campus. On a commencé à travailler en 2024 et d'ici fin 2025, nous aurons un démonstrateur qui sera mis en place au niveau de la Cité Scientifique.
Donc vous avez une courbe aussi d'évolution, de progression de cette technologie.
Oui.
Est-ce que ça va dans le bon sens?
Elle va dans le bon sens. Je vous l'ai montré, on a une courbe qui est exponentielle avec un nombre en théorie qui reste quand même relativement faible par rapport au nombre d'ouvrages qui se construisent. Et c'est là tout l'enjeu de venir promouvoir cette technologie-là pour avoir la même courbe de croissance mais translatée en nombre.
Alors ce projet-là en France, il est aussi en lien avec ce qui peut être fait dans d'autres pays, en Europe en général, parce que je vois que vous avez un financement européen. L'idée, c'est que les pays les plus en avance aident les autres à trouver des solutions justement écologiques.
Oui, tout à fait. Le projet européen a pour but, le projet européen sur lequel on travaille, donc l'action COST, elle a pour but de transférer ou de faciliter le transfert de la science, le transfert des connaissances, des pays qui ont le plus de connaissances vers ceux qui ont le moins de connaissances.
Est-ce que votre laboratoire accueille des étudiants qui viennent de ces pays, justement, qui n'ont pas encore autant de connaissances?
Alors, dans le cadre de l'action COST que je coordonne, on invite tous les ans des étudiants donc, de l'Europe, hein, donc ce qu'on appelle des jeunes chercheurs, donc des chercheurs de moins de 35-40 ans, à toutes nos réunions de travail pour justement promouvoir ce savoir et cette technologie. Et à l'Université de Lille et à la Cité scientifique, on accueille plutôt des enseignants-chercheurs, des collègues qui viennent également travailler avec nous pour développer, continuer à développer les axes de recherche autour de cette technologie-là.
Bonjour, je suis Yann Pennec, professeur de physique à l'Université de Lille et donc vice-doyen recherche de la Faculté des sciences et technologies. Et donc la présentation de Hussein Mouet, qui est professeur aussi à l'Université de Lille, rentre dans le cadre d'une action de médiation qui est à l'initiative de la faculté et qui propose de façon bimensuelle un bar des sciences, donc qui a lieu généralement à l'espace culture sur le site de la Cité scientifique en face de l'Iliade, et qui exceptionnellement, donc comme c'est le cas ici, sort de son périmètre pour venir au public et donc proposer des actions de médiation envers le grand public.
Donc la prochaine action que vous mènerez à la Cité scientifique, pour le coup, à l'espace culture, ce sera sur quel sujet ?
Alors le prochain sujet sera sur l'environnement et sera proposé par Maxime Powels, qui parlera des secteurs de l'environnement. Alors généralement les thèmes sont liés à des défis scientifiques qui sont en fait des grands thèmes que j'ai initiés donc sur le site de la Faculté des sciences. Donc on a bien sûr une vision qui est disciplinaire de l'université avec les grandes disciplines de mathématiques, physique, chimie, etc. Mais depuis trois ans maintenant, donc depuis la mandature de la nouvelle équipe de direction de la faculté, on a une vision qui est plus matricielle, où on vient finalement croiser les disciplines avec des grands thèmes qui sont des grands thèmes sociétaux, des enjeux de la société, dirigés vers la société ou vers la société pour la valorisation, vers les entreprises, au nombre de 5. Donc les grands thèmes sont la communication et l'informatique, les technologies pour les sciences du vivant, l'environnement, l'énergie et puis donc effectivement toute la partie communication et numérique.
Donc un rendez-vous tous les 15 jours, c'est à peu près ?
Tous les 15 jours sur le site du campus scientifique à l'adresse de tous, donc tout le monde peut venir. Bon, bien sûr les acteurs essentiels qui sont donc les personnels accompagnants de la recherche du site de la Cité scientifique, les chercheurs, enseignants-chercheurs, tous les étudiants, ça reste accessible, c'est un niveau scientifique, mais ça reste accessible à tous.
Voilà, l'espace culture, c'est la culture pour tous.
Absolument.
Merci.
Merci. Au revoir.